Au pied de Stilgar, maintenant, il ne restait plus qu'un sac ventru. Il s'accroupit et plaça les paumes dessus. Quelqu'un vint le rejoindre, et Paul, sous l'ombre de son capuchon, reconnut le visage de Shiny.
Jemis portait 33 litres, 7 drachmes et 3 secondes 30 de l'eau de la tribu, dit-elle. Je la bénis maintenant en présence de la Sayadina. Ekeria Kairi, voici l'eau. Philisin Folasi, de Paul Mouad Dib. Kivi Akavi, jamais plus. Nakalas, Nakelas. Que ce qui doit être mesuré et compté. Ukairan, par les battements du cœur. Jan de notre ami, Jemis.
Dans le brusque et profond silence, Shiny se retourna et regarda Paul en déclarant
« Où je suis flamme, que tu sois brandon. Où je suis rosé, que tu sois eau. »
« Pila Kaifa, » psalmodia la troupe tout entière.
« À Paul Mouad Dib va cette part, » reprit Shiny. Puisse-t-il la garder pour la tribu et la préserver d'un insouciant usage? Puisse-t-il être généreux dans les moments de besoin? Puisse-t-il la transmettre en son temps pour le bien de la tribu?
Bela Kaifa. Il faut que j'accepte cette eau, se dit Paul.
Lentement, il se leva et s'approcha de Shiny. Stilgar se redressa et recula pour lui laisser sa place, tout en lui prenant doucement la balisette.
À genoux,
dit Shiny. Paul obéit. Elle guida ses mains jusqu'au sac à eau et lui posa sur la surface élastique.
« Par cette eau, que la tribu t'accepte, » dit-elle. « Jemis l'a quittée. Prends-la en paix. »
Elle se releva, l'entraînant à sa suite. Stilgar rendit la balisette à Paul et présenta dans sa main ouverte des anneaux de métal. Paul remarqua qu'ils étaient de différentes tailles. Ils scintillaient sous la clarté du brilleur. Shiny prit le plus grand et le passa à un doigt.
« 30 litres, » dit-elle.
Puis, un par un, elle prit les autres en les présentant chaque fois à Paul.
« 2 litres, 1 litre, 7 mesures d'une drachme, 1 mesure de 3 secondes 30. En tout, 33 litres, 7 drachmes et 3 secondes 30. »
Elle présenta l'ensemble des anneaux passés à son doigt. « Les acceptes-tu ? » demanda Stilgar. Paul acquiesça.
Oui.
Plus tard, dit Shiny, je te montrerai comment les mettre dans un mouchoir sans qu'ils tintent lorsque le silence est nécessaire.
Elle tendit la main.
Peux-tu les conserver pour moi?
Demanda Paul. Surprise, elle regarda Stilgar. Celui-ci sourit.
Paul Mouad Dib, qui est Ouzoul, ne connaît pas encore nos coutumes, Shiny. Garde ses mesures d'eau jusqu'à ce que soit venu le moment de lui montrer comment les porter.
Elle hocha la tête, prit un fragment d'étoffe sous sa robe et le passa dans les anneaux, selon un nœud complexe, avant de les glisser sous sa ceinture.
« Quelque chose m'a échappé, » songea Paul.
Il percevait l'ironie autour de lui. Un souvenir de ses visions lui revint à l'esprit. Les mesures d'eau offertes à une femme, le rituel de cour.
« Maître d'eau !» appela Stilgar.
Dans le bruissement des robes, la troupe se leva. 2 hommes s'avancèrent et prirent le sac. Stilgar abaissa le brilleur et le prit pour ouvrir la marche dans l'ombre. Paul se retrouva derrière Shiny. Autour d'eux, des reflets jaunes jouaient sur les murailles, des ombres dansaient. Il sentait que tous semblaient attendre quelque chose. Jessica, ballottée entre les corps qui se pressaient, entraînée par des mains fermes, lutta un instant contre la panique. Elle avait reconnu certaines phases du rite, les traces de Chakopsa et de Botanijib dans les paroles qui avaient été prononcées, et elle savait quelle sauvage violence pouvait naître tout à coup de ces moments apparemment tranquilles.
« Jan, pensa-t-elle. « En avant. »
C'était comme un jeu d'enfant débarrassé de toute inhibition entre des mains adultes. Stilgar s'arrêta devant un rocher jaune. Il appuya sur une protubérance, et silencieusement, la muraille s'effaça, démasquant une crevasse irrégulière. Stilgar s'y engagea le premier, franchissant un panneau sombre et garni d'alvéoles. En le suivant, Paul sentit la caresse d'un souffle d'air frais sur son visage. Il tourna vers Shiny un visage interrogateur et lui toucha le bras. « Cet air est humide. »
« Chut !»
fit-elle en réponse. Mais derrière eux, une voix dit
« Il y a beaucoup d'humidité dans le piège cette nuit. Jamis nous fait savoir ainsi qu'il est satisfait. »
Jessica entendit la muraille se refermer derrière eux. Elle remarqua la façon dont les Fremen ralentissaient le pas au moment où ils passaient devant le panneau alvéolé et, à son tour, ressentit le souffle d'air humide.
Un piège à vent.
Ils ont caché un piège à vent quelque part en surface de façon que l'air parvienne dans ces régions plus fraîches et que l'humidité se condense.
Une autre porte, un autre panneau. La porte se referma derrière eux. Le courant d'air était maintenant nettement humide.
Paul vit le brilleur de Stilgar s'abaisser tout à coup, et sous ses pas, il sentit des marches. L'escalier s'inclinait sur la gauche, en spirale. La lumière jaune dansa sur les têtes encapuchonnées et le frisson des robes. Autour d'elle, sur ses nerfs, Jessica perçut la tension qui habitait le silence. Les marches prirent fin et la troupe franchit une nouvelle porte pour aboutir dans un vaste espace où la clarté du brilleur parut se diluer. Le plafond était haut et voûté. Sur son bras, Paul sentit le contact de la main de Shiny. Dans l'air froid, il entendit le bruit de gouttes qui tombaient. Dans cette cathédrale créée par la présence de l'eau, les Fremen étaient soudain encore plus silencieux.
« J'ai vu cet endroit en rêve », pensa Paul.
C'était à la fois rassurant et frustrant. Quelque part dans l'avenir, les hordes fanatiques suivaient leur chemin sinistre, ravageant l'univers en son nom. La bannière noire et verte des Atreides flottait, symbole de terreur, devant les légions sauvages qui chargeaient en hurlant leurs cris de bataille.
« Muad Dib !»«
Cela ne sera pas, » pensa-t-il. « Je ne peux le permettre. »
Mais il pouvait en cet instant ressentir en lui l'exigeante conscience raciale, le but terrible qui était le sien, et il sut qu'il serait difficile de détourner le fléau. Il prenait de la force, de la vitesse. Même si lui, Paul, mourait ici même, en 7 secondes, cela se poursuivrait au travers de sa mère, de sa sœur encore à naître. Rien ne pouvait arrêter cela, rien si ce n'était la mort de toute la troupe, de tous ses membres, y compris lui et sa mère. Il regarda autour de lui. Les Fremen se déployaient sur une seule ligne et le poussaient vers une barrière basse taillée à même le rocher. Au-delà, à la clarté du brilleur de Stilgar, il distingua la surface sombre d'une étendue d'eau qui se perdait dans l'ombre. La muraille opposée était à peine visible, peut-être à plus de 100 mètres de là. Dans l'air humide, Jessica sentit sa peau se détendre sur ses joues et son front. L'eau était profonde. Elle pouvait sentir cela et elle lutta contre le désir d'aller y plonger les mains. Il y eut un bruit d'éclaboussement sur la gauche. Par-delà la ligne noire des Fremen, elle voyait Stilgar et Paul à ses côtés. Auprès d'eux, les maîtres d'eau déversaient leur fardeau sous le contrôle d'un compteur. L'appareil était visible comme un œil gris sur le fond noir de l'eau. L'aiguille de repère était lumineuse et Jessica la vit, comme l'eau s'écoulait, atteindre le chiffre précis de 33 litres, 7 drachmes et 3 secondes 30.
Magnifique précision, songea Jessica.
Elle remarqua que les parois du compteur ne conservaient aucune trace d'humidité après le passage de l'eau. L'effet de tension du liquide avait été annulé. Ce simple fait était un indice éloquent de l'état de la technologie des Fremen. Ils apparaissaient comme des perfectionnistes. Elle se fraya facilement un chemin jusqu'auprès de Stilgar. En s'approchant, elle remarqua le regard absent de Paul. Mais le mystère de cette surface d'eau sombre emplissait toutes ses pensées.
Stilgar la regarda. Certains parmi nous avaient besoin d'eau, dit-il. Pourtant, ils peuvent venir ici et ne pas y toucher. Savez-vous cela?
Je le crois, dit-elle.
Il tourna son regard vers l'eau.
Ici, nous avons plus de 38 millions de décalitres d'eau, dit-il. Isolés des petits faiseurs, bien dissimulés, à l'abri.
Un trésor, dit-elle.
Il éleva le brilleur et regarda droit dans ses yeux.
Plus qu'un trésor. Et nous avons des milliers de réserves semblables. Seuls quelques-uns d'entre nous les connaissent toutes. Il pencha la tête.
La lumière jaune accentuait ses traits, le dessin noir de sa barbe. « Vous entendez cela ?» Ils prêtèrent l'oreille. Le bruit de l'eau qui s'écoulait goutte à goutte du piège avant parut emplir toute la salle. La troupe demeurait immobile, fascinée. Seul Paul restait détaché. Pour lui, chaque goutte qui tombait était un moment qui mourait. Il sentait le temps s'écouler en lui. Les instants qui passaient, jamais il ne les retrouverait. Il lui fallait prendre une décision, mais il n'avait pas la force de se mettre en mouvement.
« Tout a été calculé avec précision, » reprit Stilgar dans un chuchotement. « À 1 million de décalitres près, nous savons quels sont nos besoins. Lorsque nous aurons atteint la quantité suffisante, nous serons en mesure de changer le visage d'Arrakis. »
La réponse monta dans un chuchotement de la troupe sombre.
« Bila Kaifa. »
« Nous prendrons les dunes au piège entre des plantations d'herbes, » dit Stilgar d'une voix plus forte. « Nous maintiendrons l'eau dans le sol par des arbres et des réseaux de racines. »«
Bela Kaifa, » psalmodia la troupe.
« Chaque année, la glace polaire recule. »«
Bela Kaifa, » »«
Nous referons d'Arrakis un monde habitable, avec des lacs dans les zones tempérées, avec des lentilles pour fondre les glaces au pôle. » Avec le désert profond pour le seul faiseur et son épice.
Bela Kaifa.
Jessica décela le sens rituel des mots et prit conscience d'avoir répondu elle-même. Et elle songea, ils ont conclu une alliance avec l'avenir. Il leur faut escalader leurs montagnes, c'est leur rêve scientifique. Ils dominent ces gens simples, ces paysans.
Ses pensées se tournèrent alors vers Liet Kynes, l'écologiste planétaire de l'Empereur, l'homme qui avait fini par devenir un indigène. Ce rêve était propre à capturer les esprits des hommes, et elle pouvait sentir en cela la main de l'écologiste. Pour un tel rêve, les hommes étaient prêts à mourir. C'était là, elle le sentait, un autre des éléments essentiels dont Paul avait besoin. Un peuple avec un but. Il serait facile de faire naître de la ferveur, du fanatisme au sein d'un tel peuple. Ces gens pourraient être façonnés, affûtés comme une épée, et, comme une épée, redonner à Paul son pouvoir.
« Nous devons partir maintenant, » dit Stilgar, « et attendre le lever de la lune. Quand Jemis sera sur la bonne route, nous nous mettrons en marche. »
Avec des murmures de réticence, les hommes lui emboîtèrent le pas, s'éloignant de l'eau. Paul, en suivant Shiny, sentit qu'un moment vital pour lui venait de s'enfuir. Qu'il avait manqué l'occasion d'une décision essentielle et qu'il était pris désormais dans son propre mythe. Il savait qu'il avait déjà vu cet endroit dans un rêve prescient sur la lointaine Caladan. Mais à présent, de nouveaux détails étaient survenus qu'il n'avait jamais connus. À nouveau, il était troublé par les limitations de son pouvoir. C'était comme s'il descendait le cours du temps en passant du creux d'une vague à une crête. Parfois, les vagues voisines lui révélaient ce qu'elle portait. Parfois, comme il descendait, elle le lui cachait. Mais sans cesse, le sauvage djihad courait loin devant, dans la violence, le massacre, dominant le courant comme un récif. Par la dernière porte, la troupe regagna la caverne principale. L'entrée fut de nouveau masquée. Quand le brilleur s'éteignit et que les orifices furent ouverts sur le désert, ils virent la nuit et les étoiles. Jessica s'avança sur le rebord desséché, au-delà du seuil de la caverne, et leva les yeux vers les étoiles. Elles étaient brillantes, nettes et proches. Derrière elles, elle percevait les pas des Fremen. Puis un accord de balisette résonna et Paul chantonna. Elle perçut dans sa voix une mélancolie qu'elle n'aimait pas.
« Parle-moi des eaux de ton monde natal, Paul Muad'Dib. »
dit la voix d'enfant de Shiny, quelque part dans l'ombre de la caverne.
« Une autre fois, Shiny, je te le promets, » répondit Paul. Sa voix était si triste.
« C'est une bonne balisette, » reprit Shiny.
« Très bonne, » dit Paul. « Tu crois que Jemis m'en voudrait d'en jouer ?»
Il parle du mort comme d'un homme vivant, songea Jessica. Ce que cela impliquait la troublait profondément.
« Jemis aimait la musique à cette heure, » intervint une voix d'homme.
Alors chante-moi une de tes chansons,
demanda Shiny. Il y a tant de féminité dans la voix de cet enfant, se dit Jessica. Il faut que je mette Paul en garde très vite.
C'est une chanson que chantait un ami, dit Paul. Je crois qu'il est mort maintenant, Gurney. Il l'appelait la chanson du soir.
Le silence se fit comme la douce voix de Paul s'élevait sur les accords de la balisette. En ce moment criblé de cendres, un soleil d'or se perd à la plage du soir. Quel sens fou, quel parfum de désespoir, son compagnon du souvenir. Dans sa poitrine, Jessica ressentit la musique des mots, païenne, chargée de sons qui, soudain, lui faisaient prendre conscience d'elle-même intensément, de son corps, de ses désirs. Elle écoutait en un silence tendu. Les perles pâles du requiem de la nuit sont pour nous. Quelle joie alors s'allume et luit dans tes yeux. Quels amours striés de fleurs attirent nos cœurs. Quels amours striés de fleurs apaisent nos désirs. Après la dernière note, le silence se prolongea.
Pourquoi mon fils a-t-il chanté une chanson d'amour à cet enfant ? Se demanda Jessica.
Elle ressentit une peur brutale. La vie ruisselait tout autour d'elle et il lui était impossible de la retenir.
Pourquoi a-t-il chanté cela ?
Parfois les instincts sont vrais.
Pourquoi a-t-il fait cela ?
Dans l'ombre, Paul demeurait silencieux, immobile, avec une unique pensée. Ma mère est mon ennemie. Elle ne le sait pas, mais elle l'est vraiment. Elle a le djihad en elle. Elle m'a porté, m'a entraîné. Elle est mon ennemie.